Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Judith Doré, qui est présidente de notre conseil presbytéral. Bonjour Judith.
Bonjour Marie-Christine. Donc notre texte aujourd'hui vient de l'évangile de Matthieu, et c'est une histoire d'impôts.
Et ça va bien tomber, parce que c'est le moment de l'année où on parle beaucoup des impôts. Si on a la chance de payer des impôts, il faut aussi voir l'autre côté de la médaille.
Oui, alors aujourd'hui, il va être question de politique et de piège. Et le sujet plus largement, c'est quelle articulation entre le politique et le religieux. L'enseignement de Jésus déstabilisait souvent ses interlocuteurs. Et c'est le cas dans le texte d'aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu,
qui va nous montrer que ce n'est pas toujours confortable de suivre Jésus.
Soyons attentifs à la parole aujourd'hui. L'écoute de la parole est, chaque fois à nouveau, temps du désert. Temps où l'on consent de se vider de tout ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies. Temps où on a soif et faim d'une parole nouvelle.
Mais nous allons prier Dieu avant de lire la Bible.
Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux dire aujourd'hui. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen.
Et nous allons écouter maintenant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, s'apercevant de leur malice, dit « Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription « De qui sont-elles ?» Ils répondent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tout étonnés et le laissant, ils s'en allèrent.
Merci. Notre histoire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu se trouve aussi dans Marc et Luc et est bien construite. Et elle contient une des phrases de la Bible le plus connue. « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Regardons d'abord les personnages en présence dans notre histoire. Alors, nous avons qui ?
Nous avons Jésus, bien sûr.
Oui. Et en face de Jésus ?
Ce sont des Hérodiens et des pharisiens.
Et est-ce qu'ils sont favorables à Jésus
ou sont-ils des adversaires? Ce sont des adversaires, des adversaires acharnés.
Oui. Donc les Hérodiens d'abord sont, comme leur nom l'indique, des partisans de Hérode Antipas, tétrarque de Galilée. Il doit son pouvoir à la bienveillance des Romains et il a même besoin de leur soutien actif.
Donc les Hérodiens sont proches du pouvoir romain.
Oui. Et ensuite, nous avons les pharisiens, et de tous les courants du judaïsme du 1er siècle, ce sont les pharisiens qui sont le plus souvent nommés dans le Nouveau Testament. Le nom veut dire les séparés, les purs. Ils accordent beaucoup d'importance à l'étude et à l'interprétation de la loi. Et malheureusement, ils ont tendance à se croire supérieurs. Et ses opposants sont envoyés pour piéger Jésus et ils sont habiles. Alors, quel est leur but quand ils disent « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te soucier de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. » Est-ce qu'ils sont sincères?
Évidemment non.
Non, ils commencent par flatter Jésus. Ils posent leur question, mais leur but n'est pas de s'informer, mais de piéger Jésus. Et quelle est la question piège?
C'est cette fameuse question, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César?
Et Jésus perçoit la malice, leur hypocrisie. Pour les Hérodiens, la question de l'impôt à payer à César a une réponse évidente pour eux. Il est évident qu'il faut payer l'impôt spécifique à l'Empire, parce qu'ils sont soutenus par les Romains. En ce qui concerne les pharisiens, leur position est plus nuancée, étant religieusement nationaliste. Ils ne peuvent que déplorer la domination romaine. Mais n'étant pas révolutionnaires, ils maintiennent à la garde des occupants une distance prudente. Normalement, les Hérodiens et les pharisiens sont opposés les uns aux autres. Mais ici, ils sont réunis avec un but commun qui est d'attaquer et de faire tomber Jésus. L'objet précis de leur question est l'impôt à payer à César. Et la question est bien réelle, parce qu'à l'époque en Judée, l'impôt était collecté directement par les Romains auprès de toute personne. Alors Marie-Christine, tu penses qu'on paye l'impôt à partir de quel âge?
Bah, je dis ça un petit peu comme en France à l'heure actuelle, il faut être majeur, il faut travailler une vingtaine d'années.
Oui, alors qu'à l'époque, non, c'était entre 14 ans et 65 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on serait bien content de ne plus payer d'impôts à partir de 65 ans.
Un avantage, mais à partir de 14 ans, ça fait tôt quand même.
Oui. Donc, ses adversaires posent une question fermée qui attend une réponse oui ou non.
Thank you.
que Jésus répond à leurs questions?
Non, il ne va pas leur répondre directement.
Jésus donc leur demande de lui présenter un denier, qui est une pièce romaine, parce qu'il sait que les Romains exigent que l'impôt soit payé en monnaie romaine. Le denier de l'époque était une monnaie d'argent. Et les plus courants avaient une effigie de Tibère et l'inscription « Tiberius César Augustus, fils du divin Auguste ». Jésus pose une question en retour. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ou c'est la tête de qui sur cette pièce de monnaie? Les interlocuteurs de Jésus, aussi fourbes soient-ils, ne peuvent se dérober à l'évidence. Et ils répondent
qu'il s'agit de César.
Oui. Et par sa réponse, Jésus s'est tiré d'affaire admirablement. Répondre non, c'est risquer d'être dénoncé aux autorités comme rebelle. Par contre, s'il répond qu'il est pour l'impôt, on va le traiter de collaborateur. Il serait du côté des Romains et risquerait d'attirer la colère du peuple qui haïssait cet impôt, signe de leur servitude politique. En proposant de rendre à César ce qui lui appartient, Jésus sort du piège dans lequel il risquait de s'enfermer, en ramenant la question à son niveau le plus trivial. Puisque l'argent appartient à César, quel mal y a-t-il à la rendre à César? Mais ensuite, la deuxième partie de la phrase est inattendue. Rien ne la prépare dans la mesure où il n'a pas été question de Dieu ou de ce qui lui revient. Donc, pas seulement Jésus déjoue le piège, mais il ouvre une autre dimension. Du niveau politique, il ouvre au niveau théologique. Questionné sur une question de calcul politique, il répond en interpellant l'homme sur son existence devant Dieu.
Et pour nous aujourd'hui, on peut se poser la question de quels engagements politiques on doit prendre pour aujourd'hui.
Cette question, les églises se la posent régulièrement. Et il n'y a évidemment pas une seule réponse. Jésus n'indique pas le bon choix en politique. Il ne nous dit pas pour qui voter. Par contre, il appelle tous les hommes, quels qu'ils soient, à se situer par rapport à la question de Dieu. Toutefois, répondre de son existence devant Dieu n'est pas sans implication politique.
Mais que voulait dire Jésus quand il dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu ?
Mais c'est assez ambigu, comme beaucoup de choses dans les évangiles. Jésus essaie de nous déstabiliser et de nous faire réfléchir. Dans le contexte, et dans son contexte historique, le contexte de Jésus, l'image est mise en relation avec Dieu. La Bible fait allusion à l'homme lui-même qui a été fait à l'image de Dieu. Et le texte sous-entendu ici est reconnu certainement par les gens à l'époque de Jésus, et sans doute Genèse 1, le verset 26, où on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu. Un autre effet de cette fin de phrase, c'est de faire ressortir la distinction entre César et Dieu. César n'est pas un dieu, et Dieu ne doit pas être considéré comme César. La remarque finale du narrateur confirme toute l'ambiguïté de cette parole de Jésus, car elle étonne, elle rend au silence les interlocuteurs si malveillants. Cet étonnement des interlocuteurs de Jésus est chargé d'amertume et de stupeur. Non seulement Jésus n'est pas tombé dans le piège qui lui tendait, mais il leur a révélé leur propre manquement et la gravité de leur refus de se repentir. Les auditeurs, et nous par la même occasion, sommes renvoyés à nos responsabilités d'hommes. Nous devons juger de nous-mêmes de la justesse des décisions, des exigences du pouvoir politique et de leur compatibilité avec les choses de Dieu. C'est à chacun, en son âme et conscience, de décider. La réponse finale de Jésus n'est pas dépourvue d'humour, mais reste ambigu. Dans notre vie de tous les jours, dans la vie de la cité, Jésus vient nous interpeller. Il dit « c'est bien de travailler, de payer les impôts, de voter et de prendre part à la vie de la cité. Mais n'oubliez pas votre relation à Dieu. Cette relation aussi est à travailler, à soigner. » Par la prière, la lecture de la parole, la participation au repas du Seigneur et par votre témoignage, votre amour pour le prochain. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est d'œuvrer à la suite du Christ à restaurer en l'homme l'image de son Créateur. C'est vouloir pour chacun jusqu'au dernier de ses exclus, la liberté et la dignité d'un enfant de Dieu. La petite phrase de Jésus comporte une revendication contre tout ce qui, dans la société humaine, avilit, aliène ou opprime les personnes. Dans la Bible, la relation à Dieu renvoie toujours au prochain. Admettre l'altérité de Dieu conduit à prêter attention à la singularité du prochain. Et en conclusion, je voudrais vous laisser avec une petite histoire. Un homme a interrogé un sage sur la différence entre Dieu et César. Le sage a répondu que lorsque César veut montrer son effigie, Il frappe une pièce de monnaie. Toutes les pièces sont identiques. En revanche, lorsque Dieu veut révéler son image, il le dépose sur le visage de l'humain. Et il n'y a pas deux humains avec le même visage. Rendre à Dieu ce qui était à Dieu, c'est reconnaître son image sur le visage de chacun de nos prochains. C'est regarder notre prochain et y reconnaître le visage de Dieu. Amen.
Je vous invite à prier avec ce texte. Mon frère, ma sœur, en tout temps et en tout lieu, tu trouveras ce qu'il te faut de sol ferme sous tes pas pour que tu puisses continuer à avancer et pour que tu aies le droit de trébucher. En tout temps et en tout lieu, tu trouveras ce qu'il te faut d'eau fraîche pour rafraîchir tes lèvres des mots que tu n'aurais pas dû dire. En tout temps et en tout lieu, tu trouveras ce qu'il te faut de lumière pour apprendre à retrouver le visage de ton prochain. En tout temps et en tout lieu, la grâce et la paix te seront offertes de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matin au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Merci beaucoup Judith.
Merci Marie-Christine.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir.